au courrier des théâtres, c'est très simple.
C'est un duo avant l'orchestre. C'est le duo des récitants avant la guerre.
Ouvrez ce sein que je ne saurais voir.
Je pense qu'il vaut mieux que de sa propre bouche. Je tire avec douceur l'affaire qui me touche.
Roi des pitres, hors de scène à l'instant.
Mais parce que toute sa vie, parler en alexandrin ou cuisine, ça lasse.
Levée de rideau. Mise en scène par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Mais d'où vient qu'il est pris de cette fantaisie?
Nous allons le savoir dans 5 minutes.
Bonjour, bonjour à tous. Levée de rideau en 2 parties avec Amélie Casasole. Bonjour.
Bonjour.
Et merci de recevoir Radio Alliance Plus. Donc pour faire en première partie le bilan du Flamengo. Hein, et puis annoncer le mois de février, et toujours sur cette diversité, sur cette polyvalence du théâtre que vous accentuez hein, depuis que vous êtes en poste, hein, je crois vraiment essayer de faire venir les spectateurs au théâtre, mais d'aller aussi vers les spectateurs. C'est un petit peu votre mot d'ordre.
Voilà, d'élargir les publics et voilà. Puis que chacun trouve sa place dans ce projet.
Alors, vous avez présenté beaucoup des spectacles. C'était aussi une façon de vous présenter, hein, parce qu'il faut faire le passage de relais, on pourrait dire. Et ça y est, maintenant, c'est bien mis en place et vous êtes...
Oui, ben c'est aussi une façon d'accueillir le ouais. public. Ben, je trouve que c'est toujours important aussi quand on vient au spectacle, de se sentir accueilli par une équipe, et surtout dans le cadre d'un festival, voilà, et puis d'incarner aussi.
Oui, parce que du 10 au 20 janvier, j'ai vu 7700 billets vendus, un taux de remplissage à 88%, et certaines personnes ont un peu remarqué que vous disiez 9500 spectateurs. Alors, comment vous expliquez de 7700 à 9005.
Oui, ça c'est les chiffres qu'on a publiés bien sûr sur en bilan à la fin du festival. En fait, effectivement, on a vendu 7700 billets pour les spectacles qu'on a accueillis au théâtre. Mais en fait, le festival Flamenco, ce ne sont pas que les spectacles au théâtre. En fait, on fait aussi des actions culturelles. Et par exemple, on a eu une très belle exposition de Marie Julliard à l'Office du Tourisme.
L'affiche.
Exactement, l'affiche. Et dans le cadre de cette exposition, on a eu plus de 1000 personnes qui se sont déplacées à l'Office du Tourisme. Donc ça, c'est des chiffres bien communiqués et vérifiables par l'Office du Tourisme et qui sont des spectateurs qui ne sont pas achetés un billet forcément, ou peut-être les mêmes d'ailleurs, mais qui ne sont pas venus au théâtre, qui ont participé au festival d'une autre manière. On a accueilli plus de 200 élèves pour une conférence dansée de Stéphanie Foster au lycée Daudet. Mm-hmm. Donc ça aussi, ce sont des spectateurs en dehors du théâtre. Et nous avons accueilli aussi un certain nombre de stages avec soit des danseurs en herbe, soit vraiment un tout public qui venait faire une initiation. On comptabilise également les personnes qui viennent voir le film qui est projeté dans le cadre du festival au Sémaphore. Donc vous voyez, c'est toutes ces personnes qui ont participé au festival d'une manière ou d'une autre et qui constituent plus de 9000 personnes.
9500 personnes. Vous avez une comparaison avec les années précédentes où ça c'est stable?
Il y a eu peut-être des petites variations, mais c'est vrai que c'est vraiment dans la moyenne, puisqu'on est à peu près sur le même nombre de jours et le même nombre de spectacles accueillis.
Alors il y avait 15 spectacles. Moi je me suis consacrée qu'à la danse, on ne peut pas tout faire. Donc j'ai vu 8 spectacles de danse et c'était vraiment très varié et il y en avait pour tous les goûts. Alors on a une émotion plus ou moins forte. C'est toujours intéressant. Moi, j'aime bien écouter les échos. Enfin, ça parle beaucoup espagnol,
oui,
donc je comprends pas toujours.
Oui, on entend beaucoup les
olé. Et puis même les
commentaires, tout à fait.
Les commentaires, ouais. Et c'est vrai que parfois, j'adhérais pas. Parfois, au contraire, j'étais enthousiasmée. Et c'est ça, en fait, le spectacle vivant. Hein. Ça dépend un petit peu de ce qu'on ressent. Alors, il y avait les grands noms. Et bien sûr, là, on est sous l'affiche, quand je vous interviewe, de David Coria. C'était... magnifique.
Ah, c'est un très très beau danseur, une belle équipe. Enfin, ouais, c'est un spectacle marquant.
J'ai trouvé que les danses collectives étaient absolument cette énergie, les costumes. J'avais vu l'an dernier l'ébauche, comment on appelle ça, le workshop, je crois.
Exactement, Working Progress.
Working Progress, voilà. Et c'est vrai que, je n'avais pas un souvenir très précis, mais j'ai retrouvé exactement la même énergie. Et c'est peut-être ce qui a attiré le plus de monde. J'ai vu, il y a un signe, quand tous les strapontins sont pris.
Oui, on en a eu plusieurs. On a eu aussi Patricia Guerrero qui a beaucoup marqué le public, où là pareil on a vraiment eu je me demande si c'est pas une des plus grosses dates, et puis si avec aussi Ismaël Fernandez aussi, le chanteur gitan qui a réuni aussi, enfin là pareil on avait plus de strapantin.
Alors c'est vrai que bon, moi le chant j'ai pas suivi, mais je sais qu'il y a des grands échos. Et puis à Paloma, Rocío Márquez y Bronchio a un peu déstabilisé, mais c'est bien, c'est...
Et c'est la diversité de l'offre. Et puis c'est vrai qu'avec Paloma, on essaye toujours d'être en cohérence avec leur ligne artistique. C'est une scène de musique actuelle. Et donc voilà, on s'adresse aussi à un autre public. Donc là, on était vraiment dans une forme un peu hybride entre musique électro et flamenco.
Ça a déstabilisé, je connais pas mal de personnes qui sont allées, ça a déstabilisé peut-être par les purs, en fait. Il n'y avait pas de décor, c'était un côté intime dans une très grande salle, c'est particulier.
Quoi. Oui,
donc, donc c'est bien. Donc il faut retravailler, bien sûr, au programme de l'an prochain. Sinon, moi j'ai été beaucoup marquée, vous avez parlé de la conférence dansée au lycée d'Audet, j'ai été très marquée par Stéphanie Foster, déjà parce qu'elle est française, donc ça a été facile de l'interviewer.
Voilà, ça change un peu.
Voilà, c'est une très belle personne parce que ça peut être hermétique le flamenco. Et là, j'ai trouvé très intéressant justement qu'elle explique, elle a une révélation assez tardive à l'adolescence, et j'ai trouvé très intéressant que justement elle se mette à la portée de chacun. Parce que c'est le but aussi, c'est qu'il n'y ait pas que les spécialistes qui viennent.
Exactement. Et c'est pour ça qu'on a choisi d'ailleurs de donner cette conférence dans un lycée pour toucher aussi les jeunes générations qui se sentent aussi concernées par ce vent d'Espagne là, qui nous balaie début janvier et toute cette activité autour du flamenco aussi qui est prégnant dans la ville de Nîmes tout au long de l'année. Et on trouvait que c'était intéressant. Et d'ailleurs, les enseignants, je pense, ont vraiment apprécié aussi, notamment les enseignants d'Espagne, qui ont pu prolonger la discussion avec leurs élèves après.
Oui, le débat n'était pas prévu, enfin le bord de scène n'était pas prévu, et puis en fait ça s'est prolongé.
Oui.
Et puis on pourra écouter sur Radio Alliance Plus dans une itinérance, parce que c'est vrai que c'est un chemin vraiment très particulier, et elle nous explique justement à notre micro. Et puis je pense que la conférence dansée, on pourra aussi l'écouter sur nos ondes pour faire cette... ce prosélytisme, on l'a fait en vrai.
Exactement.
Et puis en dehors de ça, je trouve que c'est aussi une belle expérience de femme, dire tout est possible. Quand on veut, on peut, et c'est vraiment très, très intéressant. Toutes ces femmes, je trouve, elles ont... Vous aviez voulu donner un accent féminin.
Alors ça s'est trouvé. C'est vrai que ça dépend des années. Ouais. Donc moi j'en parlais avec Chema Blanco qui fait la programmation en tant que conseiller artistique. Et c'est vrai que cette année on a remarqué qu'il y avait toute une nouvelle génération de femmes, souvent des anciennes danseuses, mais qui sont encore d'ailleurs. Beaucoup qui sont très jeunes, mais qui se mettent à la chorégraphie et qui ont vraiment leur place maintenant dans le flamenco. Et d'ailleurs, Patricia Guerrero, donc une des plus grandes dates qu'on ait fait là cette année, c'est la nouvelle directrice artistique du ballet d'Andalousie, du ballet de Séville. Et elle a été nommée là en 2023. Donc on sent qu'en ce moment, il y a des femmes aux commandes du flamenco.
En fait, moi je crois que c'est un peu cyclique, comme dans tous les arts vivants. Il y a eu, je dirais, la révolution israélienne. Galvan, après il y a eu la révolution Rocío Molina, et puis bon, les années passent, et puis c'est très bien. Et puis il y a eu du monde au stage de danse là,
ils étaient complets assez tôt. Et donc c'est une façon aussi de transmettre de manière plus pointue, l'identité, on va dire, l'identité avec des artistes. En fait, c'est toujours intéressant si on pratique le flamenco tout au long de l'année à Nîmes, ou si on est un danseur en formation professionnelle, mais tout d'un coup d'avoir un artiste qui a sa propre écriture, chorégraphie, qui a son propre style, qui puisse venir vous transmettre un petit peu son identité, son parcours, sa couleur. C'est des belles rencontres, et on a voilà, on a connu un gros succès. Et
c'est ça un festival. Exactement. Il n'y a pas que la représentation, il y a tout autour, et puis ça se prolongeait dans les soirées, dans les différentes bodegas.
Exactement. On est allé aussi, on parlait tout à l'heure, toutes ces autres spectateurs qu'on a touchés en dehors de la salle. Par exemple, quand on a accueilli Paola Comitré, après le spectacle, on a poursuivi, on va dire, la discussion avec l'artiste, cette fois en dehors du plateau. On s'est retrouvés à la bodega La Macarena. Et là, il y avait plus d'une centaine de personnes qui étaient là. Donc, certains avaient quitté la salle et nous avaient rejoints, mais d'autres aussi. Il y avait une soirée en cours et sont restés. Et il y a eu des échanges avec cette équipe espagnole et c'était très, très intéressant et très sympathique.
Et puis, avec une traductrice. Il n'y avait pas le blocage de la langue, ce qui est important.
Même si j'ai remarqué que beaucoup de Nîmois pratiquaient l'espagnol quand même.
C'est une langue très espagnole.
Tout à fait.
Moi, j'arrive à comprendre quand ils ne parlent pas trop vite, mais oui. J'arrive pas à parler. Donc, voilà. Mais il y a donc beaucoup de choses. Et vous avez eu des échos du ressenti des spectateurs
Oui, on a eu vraiment en tout cas, moi, je prétends pas avoir pu parler avec les 7500 personnes qui sont venues voir des spectacles, mais en tout cas...
Vous avez tout de même senti l'atmosphère
bien sûr,
à la sortie.
Il suffisait de voir les applaudissements, les gens debout. On a eu beaucoup de salles qui se terminaient
en ovation.
Donc ça, c'est assez marquant. Et puis, les gens venaient me voir aussi à la fin, ou voir l'équipe à la fin des spectacles pour nous faire part de leur enthousiasme. Et on l'a senti, ça a traversé comme ça tout le festival et j'en parlais avec l'équipe. C'est un vrai échange en fait, et puis ça vient aussi pour l'équipe notamment récompenser des longues semaines, pour pas dire des longs mois de préparation, où on a nous aussi un peu le trac, un peu comme les artistes qui se produisent sur scène. On se dit est-ce que ça va plaire, est-ce que ça va être à la hauteur de nos attentes.
C'était votre premier festival flamenco.
Oui, je vois ça dans une continuité, et puis voilà, on voit ça d'un autre œil, mais c'est vrai que ce qu'on veut, c'est que ça touche le public, que la rencontre s'opère. Nous, on est là vraiment dans un endroit du passage, en fait. On doit s'effacer. Et c'est vraiment rendre possible la rencontre des artistes avec le public. Et là, on a l'impression que ça s'est opéré.
Alors moi, pendant les spectacles de danse, je pensais aussi à toutes les équipes techniques, parce que... Ils ont combien de temps pour préparer les décors, la lumière, le son? Il n'y a pas énormément de décors, il n'y a pas de grands, des maquettes, il n'y a pas de grands décors, mais il y a les lumières.
Oui.
Et ils sont là, je dirais pas 24 heures sur 24, mais enfin, c'est très important.
Eh bien si, ils sont là 24 heures sur 24, alors on change d'équipe, mais vous faites bien de le soulever. Est-ce que c'est vrai qu'il n'y a pas forcément des scénographies, des décors extrêmement imposants, mais par contre, il y a beaucoup de lumière.
Et
il faut savoir
très précis,
que c'est des réglages. Et puis, les projecteurs, chaque spectacle a ce qu'on appelle un plan de feu. Donc, une implantation, c'est-à-dire qu'on va mettre des projecteurs à certains endroits pour éclairer les danseurs aux endroits la chorégraphie. Et tout ça, ça demande énormément de manutention. Donc, on a une équipe de nuit et une équipe de jour, et pendant le festival. Donc, on a réellement un théâtre ouvert 24 heures sur 24, en tout cas qui est en travail 24 heures sur 24 pendant tout le festival.
Alors c'est vrai que lors de la journée du patrimoine, il y a des visites guidées du théâtre. Et moi, je me souviens, j'ai fait la première il y a une dizaine d'années. Et c'est très intéressant de voir ce qui se passe derrière.
On n'imagine pas tout le travail que c'est. Et souvent, on a l'impression que quand un théâtre est fermé, il ne se passe rien. Et en fait, non.
C'est un peu une fourmilière.
Exactement. C'est une vraie petite entreprise. Ouais. Et c'est un métier très artisanal, en fait. Tout se fait à la main, avec beaucoup de personnes qui transmettent leur savoir. Et au niveau de la technique, il y a un vrai compagnonnage.
Je regardais attentivement. Je me disais, ça tombe au bon moment. Je me suis fait la remarque, peut-être que vous ne serez pas d'accord. Je trouve qu'il y a de plus en plus d'importance donnée à la lumière dans le flamenco. Des focus sur un visage, sur une attitude, sur... Comme si on nous aidait, comme si... C'est bien, hein.
C'est des metteurs en scène, c'est des nouvelles générations aussi qui travaillent vraiment ce qu'on appelle la scénographie, la mise en... en scène finalement de leur danse, ouais. Et donc avec tout ce que ça, voilà, ce que ça implique, des musiques originales, des lumières, des décors, mais aussi des costumes,
bien sûr,
qui évoluent beaucoup, ouais, et qui demandent aussi beaucoup de travail.
Bien sûr, les costumières, voilà. Et puis l'importance de chaque détail. Et puis j'aimerais conclure sur l'énergie de ces danseurs, parce que c'est vraiment des athlètes de haut niveau. Hein. Là, on va vers les Jeux Olympiques, mais je trouve que ces danseurs, ce sont vraiment des athlètes, quoi.
Oui.
Là, et c'est ce que j'aime dans le spectacle vivant, c'est qu'on les entend respirer, on les voit transpirer. Mmh. C'est pas de la télévision, quoi.
C'est la magie. Enfin, c'est ce qui fait le spectacle vivant est irremplaçable. Et c'est vrai qu'après la pandémie, on s'est dit, oh là là, c'est la fin du spectacle, on a mis du temps. Et en fait, non, parce qu'il y a quelque chose qu'on ne retrouvera jamais derrière son écran. Et voilà, même s'il y a des très, très, très beaux films. Mais d'avoir un artiste qui est là sur scène, avec qui on vibre, et chaque soir est différent.
Oui.
Donc, on est vraiment dans une rencontre, comme quand on discute, on rencontre quelqu'un. Il se passe quelque chose, c'est une interaction. Et ça, quand on passe une soirée au théâtre pour voir de la danse ou écouter un texte, eh bien, on ressort avec une dimension aussi humaine et pas qu'intellectuelle ou de loisir. Il y a aussi quelque chose qui s'est passé humainement, et c'est ce qu'en fait la saveur.
Alors c'est vrai qu'on est plus ou moins, moi pour être très honnête, il y a certains spectacles qui m'ont pas enthousiaste, mais j'étais pas enthousiaste à la fin. On vient chercher une sorte de d'excitation, moi. Et puis il y a des fois où on est ravi, on sort de là enthousiaste, content.
C'est une variété, exactement. C'est ça qui est bien dans un festival, c'est quand on enchaîne, et on peut comparer, on se dit, j'ai préféré hier, et puis on a au fur et à mesure que le festival avance, on aiguise un peu son regard, on peut comparer, et c'est aussi ça le plaisir de vivre le festival. Et ça, j'ai pu le vivre avec un certain nombre de spectateurs qui étaient là pratiquement à toutes les représentations, donc c'était intéressant parce que ça nourrissait les discussions.
Ça fait comme une communauté d'échange.
Il y a des passionnés. Il y a un groupe de passionnés.
Alors c'est vrai que j'ai pas parlé tellement des chanteurs, mais on va écouter celui en guitare, celui à qui vous avez rendu hommage à ses 45 ans de carrière. Ça a été une très belle soirée aussi.
Ah oui, c'était magnifique pour clôturer.
Six guitaristes, Gérardo Nunez, c'est six guitaristes. Et je vous propose de faire la transition vers la suite du programme de février, d'écouter un petit morceau. Alors sur Radio Alliance Plus, nous retrouvons Amélie Casasol après ce bilan du Festival Flamenco, des petites mises au point, 7700 billets, 9500 spectateurs, et donc un grand enthousiasme. Ça occupe le mois de janvier, là il a fait très chaud pendant ce mois de janvier, mais d'habitude c'est le rayon de soleil, et là on en avait déjà beaucoup, et l'équipe est déjà en train de travailler donc à ce mois de février qui sera coupé par les vacances de février.
Oui. qui arrive tôt cette année.
Qui arrive tôt, oui, on est la première zone, oui. C'est ça. Et je retrouve toujours cette même variété, puisque... On commence par une Battle of Portraits, Fabrice Ramalengon, qui est très, très connu, et où il y aura un temps d'échange avec les artistes, un bord plateau, le 30 et le 31 janvier, c'est à l'Odéon.
C'est à l'Odéon. Ah,
c'est vrai que j'ai oublié de signaler, mais vous le savez aussi bien que moi j'apprécie dans le flamenco l'Odéon, parce que je trouve qu'il y a une intimité, une intimité qu'on a moins dans une grande salle. Et je pense à Paola Cometri dans sa création.
C'était magnifique, tout à fait.
Et puis on était vraiment avec elle. C'était
mais c'est
super.
Une très très belle salle, l'Odéon, qui a un magnifique rapport scène-salle. Il y a un très beau plateau et on est proche des artistes. Puis la salle a beaucoup de charme. Ouais. Et c'est vrai qu'on c'est une
la
salle
qu'on apprécie. La première fois que je suis venue à l'Odéon, il y a une quinzaine d'années que je suis là, c'était encore en forme cabaret. Avec les tables et les petites chaises autour, ça avait un côté très, très sympathique. Et je pense que Fabrice Ramalengon, là, ça va vraiment marquer parce qu'il est, lui, jeune et un danseur plus âgé. Donc, c'est toujours intergénérationnel. Et c'est bien parce qu'on peut danser quel que soit son âge.
Ah bah,
on
n'a
pas
sûr.
Les mêmes performances.
c'est tout le propos en fait de ce spectacle. Donc c'est une forme de danse contemporaine, mais c'est de se voir comment le corps se met en mouvement, qu'on ait 25 ans ou 70 ans,
et
comment
on peut se répondre.
Voilà, mais comment on se répond et comment la grâce dans le geste peut être trouvée quel que soit son âge quand on est danseur.
C'est vrai que la danse, moi j'ai toujours l'impression d'être capable de faire la même chose que ceux qui sont sur scène. On le sent en nous-mêmes, on sent les vibrations.
Exactement, c'est ce qu'on aime en fait, souvent quand on aime la danse. C'est pour ça que le virus de la danse, une fois qu'on l'a attrapé, on a toujours envie de revenir voir de la danse, parce qu'en fait on danse dans sa tête.
Oui,
tout à fait. Et ça, c'est.
Et ça abolit
quelle que soit la possibilité de ses performances, ça nous fait fantasmer à un moment.
Voilà. C'est magique, en
exactement.
Fait. C'est un coup de baguette là, on devient danseur étoile. Enfin là, c'est de la danse contemporaine.
Oui,
mais
exactement.
Très bien. Alors, l'autre spectacle, là, on finit donc le mois de janvier, le 30 et le 31, avec Fabrice Ramalengon. Et puis, on démarre février, le 6 et le 7, avec un habitué. Moi, je l'ai déjà vu plusieurs fois. André Dussolier, Sans dessus, dessous. Et là, je suppose que c'est plein.
C'est complet, mais ce que je dis toujours maintenant que je commence à comprendre comment fonctionne, on a parfois des petites places qui se libèrent au dernier moment, surtout l'hiver, parce qu'il y a quand même pas mal de malades, c'est, tout est relatif, bien
ou des
entendu.
Des gens pour des empêchements.
Des empêchements de dernière minute. Et c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à appeler la billetterie, parce que sur le site internet, souvent, on ne peut plus acheter de place. Mais on a parfois des gens qui nous appellent en disant « je ne pourrais pas venir ce soir pour X heures ». Et là, on peut trouver des places. Il faut tenter sa chance parce que...
Ça m'est arrivé d'avoir quelquefois une place comme ça à la dernière
exactement.
Minute.
Exactement. Alors là, c'est vrai que ça fait un moment qu'on a guichet fermé avec André Dussolier, mais... Quelques chanceux pourront.
Il a une voix particulière. On parlait du chant flamenco, mais moi, au théâtre, je suis très sensible aux voix, aux intonations. En fait, dès que la personne parle, ça y est, il nous emmène dans son univers.
C'est un comédien en plus, qui nous a tous marqués depuis
un certain nombre d'années. On reconnaît instantanément.
On l'a beaucoup vu au cinéma. Ça, c'est quelqu'un de très familier, donc c'est un comédien qu'on aime beaucoup, qui a un grand talent et ça a tout de suite plu, on va dire, et donné envie aux gens de se déplacer.
Alors, on continue notre grand écart, parce que après André Dussolier, on passe à Fouad Boussouf. Alors là, on change de style, on change de genre. C'est ce que vous aimez, on a bien compris, Amélie. Donc, c'est le vendredi 9 à la salle Bernadette Lafont. Et là aussi, c'est explorer... j'ai l'impression de me répéter, tant pis, un autre univers. Quoi.
Oui, donc là, on est dans le Fouad Boussouf, c'est un chorégraphe qui vient à la fois du hip-hop et de la danse contemporaine, qui a déjà une hybridation dans sa danse entre le vocabulaire de la danse urbaine et le vocabulaire contemporain, et puis qui est aussi très imprégné de sa culture d'Afrique du Nord et qui aime aussi mêler les esthétiques avec des danses qu'on peut retrouver dans tout le bassin méditerranéen et notamment au Maghreb. Et c'est vraiment une danse métisse, une danse d'hybridation. Il a vraiment inventé un langage corporel qui est très intéressant.
Et puis il nous ouvre des horizons. Parce qu'on a tendance, chacun, je veux dire, même si on est curieux, à écouter toujours le même style de musique.
Oui.
Et là, en fait, ça nous ouvre les oreilles.
Oui, c'est une ouverture à une plus grande palette culturelle. Et puis surtout, ces mélanges, de ce vocabulaire à la fois de danse urbaine et de danse traditionnelle, c'est très intéressant. Il fait ça merveilleusement bien.
Qu'on a retrouvé aussi dans le flamenco. Hein. On a vu ce mélange de classicisme et puis de contemporain, d'innovation. C'est ça qu'on aime.
Exactement, c'est la nouveauté, tout en ayant quand même des repères, donc c'est intéressant.
Alors, 27 et 28 février, L'Avare de Molière, de Benoît Lambert. Donc là, je suppose aussi que ça va être nouveau, en mise en scène
Alors non, ça c'est une forme...
Nouveau par rapport à la comédie française, par exemple.
Oui, alors non, justement, le Benoît Lambert est vraiment... Alors bien sûr, c'est un metteur en scène d'aujourd'hui, qui a une façon, une direction d'acteur qui est très moderne. Mais là, on est vraiment dans une forme de théâtre classique, même si la scénographie est très inventive, mais elle reste vraiment, vous voyez,
les
photos, que ce soit les décors et les costumes, on est vraiment dans, on va dire, un pur classique.
D'accord.
Donc là, on ne sera pas des fois, vous savez, il y a des classiques revisités, est dans Shakespeare, mais on est avec des jeans et des baskets. Là, pas du tout. On est dans une forme de classicisme, mais je dirais qu'il y a vraiment une modernité dans le jeu qui est très dynamique, une direction d'acteur vraiment impeccable. Vous avez des très, très bons comédiens, très grands comédiens sur scène, et une très, très belle scénographie, des costumes fabuleux. Donc là, vraiment, pour les amoureux du classique,
ils seront contents. Faire connaître aux jeunes, aux enfants, puisqu'il y a un public scolaire,
lycéens,
on ne l'a pas dit, mais c'est important
qu'il y ait ce public. Et les collégiens, et puis L'Avare, c'est une des pièces les plus drôles de Molière. Sans priver.
Oui, parce que souvent, je pense aux malades imaginaires, c'est assez désespérant, la fin.
Oui, voilà. Il l'a écrit un peu dans un moment de sa vie qui n'était pas...
qui était un peu compliqué.
Mais là, c'est mordant, c'est drôle.
Et alors, on finit ce mois de février, le 28 février, donc à l'Odéon, à 18h. Il faut faire attention Alors, c'est pour les jeunes.
C'est un jeune public.
Il y a un
voilà.
apéro diabolo, mais même si on n'est plus tout à fait jeune, on peut venir.
C'est ouvert à toutes.
Moi, j'adore ces spectacles jeunes publics avec le collectif Trig. Et là aussi, à l'Odéon, on s'adresse vraiment à ces jeunes pour leur donner le goût, assez très jeunes même, parfois.
Oui,
leur donner le goût
du spectacle.
Mais merci beaucoup, Amélie Casasol, de ce bilan de
merci
ce mois
vous.
De février. Et puis, on se retrouvera pour la suite, puisque il y a encore beaucoup.
On a encore quelques spectacles.
Merci à vous.
Merci à vous.
Partagez vos événements sur agenda@radioalliance-plus.fr.